Psaume 16, Mictum de David. Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Dieu a dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Dieu a dit aux saints qui sont sur la terre et aux excellents, en eux sont toutes mes délices. Les misères de ceux qui courent après un autre seront multipliées. Je ne répandrai pas leurs libations de sang et je ne rendrai pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe. Tu maintiens mon lot. Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Et oui, un bel héritage m'est échu. Je bénirai l'Éternel qui me donne conseil. Durant les nuits, même mes reins m'enseignent. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme s'égaie. Même ma chair reposera en assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne permettras que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie, ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Chers amis, vous avez certainement remarqué que c'est vraiment dans certains versets une réponse même directe à la question qui est posée dans le psaume 15. C'est une question que Dieu fait poser par David. La question qui séjournera dans ta tente, qui demeurera en ta montagne sainte? C'est-à-dire qui est vraiment, qui montre vraiment les caractères qui conviennent à la tente de l'Éternel, qui conviennent à, comme il est dit ici, sa sainte montagne. Et maintenant, nous avons encore un psaume de David. J'ai déjà dit, il est évident que Dieu lui-même, par son esprit, a mis aussi les psaumes l'un après l'autre. Il y a une règle, un ordre aussi dans les psaumes. Nous savons cela d'ailleurs dans certains psaumes, plusieurs psaumes l'un après l'autre, nous montrent des lignes d'esprit, des lignes de pensée, et ça nous réjouit de voir ça. Je prends comme exemple tout simplement le psaume 22, 23, 24. C'est toute une ligne qui commence avec le psaume 24 où il est parlé du Seigneur, de ses souffrances, n'est-ce pas, de son œuvre. Et puis le psaume 23 qui nous montre alors aussi ce qui est le résultat. Et le psaume 24 nous montre aussi que le Seigneur, qui est bien sûr aussi le sujet le thème de ces psaumes, que lui est le grand roi qui entrera dans son royaume. Mais ici aussi, nous avons, il y a justement une réponse. Mais ce qui nous étonne peut-être, c'est que cela commence avec une prière de nouveau, avec une prière que le psalmiste David ici prononce, « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. » D'ailleurs, peut-être encore ceci. Dans les psaumes, nous trouvons très souvent, dans le premier verset, une sorte de titre, de résumé même, quelquefois, du grand sujet qu'on lit ensuite. C'est ici aussi le cas. « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. » Enfin, je ne dis certainement rien de nouveau quand je dis que le psaume ne parle que d'une seule personne. Mais par la suite, nous allons voir que cette seule personne-là a aussi d'autres qui conduit ce chemin. Et cela rejoint d'ailleurs aussi le cantique que nous venons de chanter. Garde-moi, ô Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui est venu ici sur la terre, qui est devenu homme, qui est né à Bethléem, petit enfant, qui grandit, qui devient un homme, qui se montre pour finir, pour faire le service que Dieu lui avait donné. Mais déjà depuis le début de son existence comme homme ici sur la terre, vous comprenez quand je dis ça, existence comme homme ici sur la terre, depuis ce moment-là, c'est déjà la prière du Seigneur, garde-moi, ô Dieu. Il montre dépendance de Dieu et il le fait depuis le premier début. Nous savons par exemple le psaume 22 aussi, qu'il a parlé du fait que Dieu l'a tiré aussi de sa. Et qu'il a mis sa confiance dès ce moment-là déjà en Dieu. Et cette confiance, elle est exprimée ici aussi par les mots « garde-moi, ô Dieu ». Il a été gardé. Non pas qu'il avait besoin d'être gardé comme nous avons besoin d'être gardés parce que nous sommes des hommes pécheurs qui doivent être gardés vraiment, et c'est une demande, une prière que nous avons chaque jour. Ce matin, on a aussi demandé le Seigneur, demandé Dieu qu'il nous garde pendant la journée. Vous avez certainement fait la même chose. Nous demandons à Dieu de nous garder du mal, de nous garder des dangers, qui nous garde de quelque chose qui peut nous arriver, de nous garder aussi de l'impatience qui peut être dans nos cœurs, de nous garder aussi de toutes sortes de pensées qui peuvent passer par notre tête et qui ne sont pas utiles, mais le contraire. Nous avons besoin que Dieu nous garde. Et il le fait d'ailleurs aussi, et il l'a fait aussi pour le Seigneur. Mais je répète encore, ce n'est pas la même pensée que chez nous. Nous avons besoin d'être gardés du mal, d'être gardés de tout ce qui ne peut pas plaire à Dieu. Le Seigneur n'avait jamais dans son cœur quelque chose qui aurait besoin d'être gardé dans ce même sens. Mais c'est une expression de sa dépendance. Et est-ce qu'il dit, moi je suis un homme et comme homme, je veux être soumis à mon Dieu et montrer aussi à tout moment ma dépendance de Dieu. Et nous pouvons certainement dire aussi que le Seigneur, quand il est allé prier, et il l'a fait très très souvent, bien sûr, il était même un homme de prière, il était prière, il dit dans un psaume aussi. Moi je suis prière, et que lui il a aussi eu cette prière chaque jour. Bien qu'il n'avait pas, il n'avait pas besoin, il n'en avait pas besoin comme nous. Mais alors ensuite, car je me confie en toi. Alors là, vraiment, aucun homme ne s'est jamais aussi clairement et directement confié en Dieu que lui. Et pour en cela, déjà le premier verset, c'est un très grand modèle, un exemple pour chacun de nous. C'est une demande ici que nous pourrions avoir chaque jour aussi. Vous et moi, nous avons besoin de ça. Et aussi, nous voulons être vraiment confiants. Nous demandons à Dieu de nous garder et nous voulons aussi avoir toute confiance en Dieu. Est-ce que nous l'avons toujours? C'est une question. Pour le Seigneur, exactement vrai. Il a mis sa confiance en Dieu. Voilà, pour ainsi dire, le sujet, le thème aussi de ce psaume. Ensuite, il y a une petite difficulté peut-être dans la phrase, dans le deuxième et dans le troisième verset. Il est dit, maintenant tu as dit à l'Éternel. Qui parle ? Tu as dit à l'Éternel. Verset 3. Tu as dit au Saint. Qui est le tu ? Dans le premier verset, le psalmiste David, en réalité le Seigneur Jésus, s'adresse à Dieu. Est-ce que c'est maintenant Dieu ? Non. C'est pour cela que, par exemple, je n'ai pas trouvé dans la version que vous employez, mais dans la nôtre que nous avons en allemand, les traducteurs ont inséré un petit mot. Ils ont inséré un petit mot. Toi, mon âme, a dit à l'Éternel. Et dans une étude, j'ai lu alors que le frère qui a dit quelques pensées concernant cela, il a dit, nous pouvons bien dire, toi mon âme, et peut-être c'est aussi toi, le Saint-Esprit qui conduit mon âme. J'espère que je l'explique bien. Et alors, mais le toi, c'est maintenant la personne qui parle dans ce psaume. Il se parle elle-même, toi, mon âme, tu as dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Premier verset, garde-moi, je me confie en toi. Deuxième verset, tu es le Seigneur. Ô Dieu, tu es le Seigneur. Soumission. La déclaration très, très claire de vouloir obéir. Seigneur, c'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui peut dire ce qu'on doit faire. Alors le Seigneur, qui est dans ce psaume, bien sûr, lui, il dit à Dieu, tu es le Seigneur. Moi, je vais te suivre, je veux t'obéir, je veux faire exactement ce que tu me dis. Dans un autre, nous connaissons cela certainement en Ésaïe 50, tu m'ouvres l'oreille afin que je sois, j'écoute. Alors, c'est exactement aussi la pensée que le Seigneur a. Il est dans cette dépendance, dans cette soumission, dans cette obéissance. Il veut absolument écouter et faire ce que l'Éternel, c'est-à-dire son Dieu, dit. Tu es le Seigneur. Et puis ensuite, il ajoute encore ici quelque chose. Ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. La bonté, c'est d'une part ce que Dieu a envers nous. Nous sommes des objets de la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui nous a conduits à la repentance, par exemple, Romains 2. Et aussi la bonté de Dieu est là pour nous bénir, pour nous aider dans notre chemin, est aussi prête à nous donner le secours dont nous avons besoin. Mais la bonté, c'est aussi un mot, un terme qui désigne ce qui est en soi bon, la bonté. En allemand, on dirait une certaine qualité, la qualité d'être bon, c'est ça aussi, la bonté. Et ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Ah, le Seigneur Jésus dit cela, et sa bonté, il dit, il montre alors une humilité extraordinaire. Nous connaissons certainement un autre passage dans l'évangile de Saint Marc. Nous trouvons une fois un homme qui vient auprès du Seigneur et qui dit au Seigneur, bon maître. Et le Seigneur lui répond, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un qui est bon, Dieu. Bon, cet homme-là aurait dû aussi s'il avait bien fait écoute, fait attention, il aurait pu comprendre. Alors, s'il voit que le Seigneur est bon, il devait aussi comprendre, alors, le seul qui est vraiment bon, c'est Dieu. Alors, le Seigneur est Dieu. Il aurait dû comprendre cela de cette façon-là. Il ne l'a certainement pas compris comme cela, malheureusement. Mais cette attitude que le Seigneur, nous la trouvons ici dans ce psaume. Et nous avons d'autre part aussi dans les proverbes, quelque part, aussi une parole où il est dit que beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Ah, je suis quelque chose. Ah, je suis bon. Etc. Le Seigneur, il est humble. Les hommes, en général, nous devons apprendre ce que c'est que l'humilité. Alors, ces hommes qui se disent bons, qui ont de la bonté, comme ça, nous comprenons bien ce que Dieu pense de ces personnes-là. Mais nous voyons aussi combien cela doit plaire à Dieu que de voir un homme humble, qui est parfait, mais qui dit « Ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Toi, tu es la bonté, oui, en personne, oui, en... C'est l'être de Dieu aussi, son amour, mais aussi sa bonté qui découle de l'amour. Donc, cette dépendance d'une part, et deuxièmement, cette humilité, nous comprenons bien, le psaume ne peut parler pas de David. David doit l'écrire, c'est l'Esprit de Dieu qui lui dicte, pour ainsi dire, ce psaume. Mais il sait aussi que ce n'est pas lui, mais c'est quelqu'un d'autre, et quelqu'un plus grand, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, duquel il a le droit, par l'Esprit, de parler. Au verset 3, tu as dit, alors toi, mon âme, tu as dit aux saints qui sont sur la terre et aux excellents, en eux sont toutes mes délices. Ce que nous voyons ici, ce ne sont pas directement des événements de la vie du Seigneur. Et pourtant, nous trouvons quelques exemples aussi dans sa vie, tels que les évangiles nous la décrivent, de ce que nous trouvons ici. Ici, c'est le cœur du Seigneur qui est montré. Les motifs qui sont là, le cœur, les motifs sont là, les pensées profondes du Seigneur. Tout cela, nous le trouvons, mais nous pouvons certainement aussi trouver des exemples ou des situations où cela est devenu vraiment visible. Tu as dit aux saints, le Seigneur donc a dit aux saints qui sont sur la terre, en eux est tout mon plaisir. Quels sont ces saints? Est-ce qu'il y a sur la terre des saints? Que veut dire saint? Saint, cela dit séparé. Séparé, eh bien, séparé pour Dieu, c'est ça. Saint, c'est séparé pour Dieu. Il y a des saints qui étaient séparés pour Dieu. Comment? Il y avait quelques-uns qui étaient prêts à se reconnaître comme pécheurs, à se reconnaître comme ceux qui avaient besoin d'un sauveur, qui avaient besoin de passer par le baptême de la repentance. Alors, ça nous conduit au Jourdain, où un homme, Jean le baptiseur, a baptisé ceux qui arrivaient dans cet esprit que je viens de décrire. Et c'était maintenant des saints, parce qu'ils étaient, ils se séparaient du peuple. Le peuple était dans des ordres et aussi vivait en rébellion contre Dieu, en tout cas pas vraiment une vie pieuse. Mais il y en avait quelques-uns dont le cœur a été atteint par les paroles de Jean le baptiseur et qui sont venus et il les avait appelés de venir pour être baptisés parce que le Messie allait venir. Et alors ils sont venus là et qui est venu aussi? le Seigneur Jésus est venu. Il est venu là pour faire exactement la même chose, être prêt à se faire baptiser par Jean le baptiseur. Pourquoi ? Il est dit, Jean ne le veut pas, parce qu'il a compris. Lui, c'est le seul qui n'a pas besoin de baptême de la repentance, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il dit, non, c'est vrai. Le Seigneur dit, mais il est bien, nous devons accomplir toute justice. Parce qu'il voulait être, il voulait montrer par là qu'il se mettait, qu'il avait de la communion intérieure avec tout ce groupe qui était prêt à se laisser, à se faire baptiser. Il l'a fait aussi. C'était là les saints. Et il se réjouit d'être parmi ceux qui étaient prêts aussi à se faire baptiser. Et les excellents, c'est la même chose. Ce sont ceux qui étaient vraiment, qui portaient un autre caractère que le peuple en entier. C'était des personnes excellentes dans ce sens-là. Et pour ceux-là, le Seigneur dit, en eux, j'ai mon plaisir. Parce que ce sont des gens, des hommes qui ont compris qu'ils avaient besoin, qu'ils ont besoin d'un sauveur et qui se sont séparés du mal, se sont séparés aussi de tout du peuple qui est contre Dieu. Alors il a dit, ils sont mon plaisir, c'est eux. Alors, nous connaissons aussi certaines personnes de nom, quand le Seigneur était venu. Alors il y avait sa mère, il y avait son père, Joseph, il y avait aussi Zacharie, il y avait Élisabeth, il y avait Siméon, il y avait la prophétesse Anne, il y avait aussi certains des disciples, parce que le Seigneur se mêlait aussi là, il les a choisis. Pourquoi ? Parce que c'était des hommes qui n'étaient pas des rebelles contre Dieu, mais qui étaient prêts à écouter. Le Seigneur les a choisis. Il est allé vers à côté de la mer de Galilée, et il a appelé Jean, il a appelé Pierre, il a appelé Jacques, il a appelé encore André. Alors c'était des personnes que nous trouvons ici. C'est très beau de voir, je trouve, que le Seigneur dit cela. En eux, j'ai mon plaisir. Et Jérémie, aujourd'hui, nous ne rencontrons pas le Seigneur comme ils l'ont rencontré, mais nous avons une autre sorte de rencontre avec lui. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu, pu entendre cet évangile, pu entendre que nous avions besoin de repentance et que nous pouvions croire au Seigneur Jésus qui était mort à notre place. Alors nous lui appartenons. Alors nous sommes aussi dans ce sens-là, des saints et qu'il appelle aussi des excellents, parce qu'ils sont autres, ils sont différents des autres. Et il a son plaisir. Et ça nous touche et ça nous réjouit aussi beaucoup d'être si proche de ce que le Seigneur dit cela. Nous pouvons bien sûr aussi nous poser la question pour ces gens. Dans l'époque, quand le Seigneur était sur la terre, nous comprenons qu'ils étaient aussi des personnes qui suivaient le Seigneur, les disciples, mais aussi les autres. Ils étaient vraiment attachés de cœur au Seigneur Jésus, qui parmi les autres était rejeté et méprisé. Mais eux ne méprisaient pas du tout le Seigneur. D'ailleurs aussi, après quelques femmes qui ont servi le Seigneur, il y a aussi la maison de Béthanie, bien sûr, ces trois personnes aussi. Alors, chers amis, aujourd'hui, ce sont des croyants qui appartiennent au Seigneur et dans lesquels il a de la joie. C'est aussi un appel, n'est-ce pas ? C'est aussi un appel pour nous. Est-ce que le Seigneur peut avoir vraiment du plaisir en nous? Parce que nous vivons selon ce que nous avons vécu, ce que nous avons reçu. que nous sommes aussi, selon la parole, c'est vrai, des saints, et comme il dit ici, des excellents, qui sont pour le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui veulent le suivre, qui veulent le servir. Bon, ces questions, on peut bien les ajouter ici. Ensuite, dans le verset 4, le Seigneur qui parle, bien sûr, par l'Esprit, « Les misères de ceux qui courent après un autre seront multipliées. Je ne répandrai pas leur libation de sang et je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. » Ceux qui suivent un autre. Peut-être encore une petite remarque concernant le psaume, aussi ce psaume-ci. Les psaumes ont très souvent, et aussi ce psaume, un caractère prophétique. C'est-à-dire, ce que nous lisons là a encore une réalisation dans l'avenir. Et alors, il y aura un autre qui, en son propre nom, va venir et qui va attirer le peuple. Nous comprenons, nous savons par l'Écriture qui c'est. Et alors, c'est faire comme si l'on avait aussi... Et déjà aussi dans l'époque où le Seigneur Jésus était sur la terre, il y avait aussi encore ces sacrifices, libations de sang, etc., etc., tout ce que le Seigneur ne pouvait pas reconnaître, ce qui était fait par les sacrificateurs, etc., dans l'époque quand le Seigneur était ici sur la terre. Et quant à ceux qui suivaient cet autre homme du Christ, là, alors il ne prend pas même les noms sur ses lèvres. Peut-être ça nous rappelle encore aussi ce cas où ceux qui étaient venus pour qui n'avaient pas vraiment attendu le Seigneur, l'époux qui vient pour la noce. Qui avait dormi, qui n'était pas des vrais disciples, des vrais croyants, prenons ces vierges-là, quand ils arrivent là, et il y a encore un autre passage où nous trouvons la même chose, qui viennent là, et ouvre-nous, Seigneur, et le Seigneur dit, je ne vous connais pas, je ne connais pas vos noms, ne sont pas écrits dans le livre des vies. Alors, peut-être on peut penser aussi à cela. Et quand on regarde aujourd'hui la chrétienté, combien sont là qui se disent chrétiens, qui se disent, oui, nous sommes, oui, Christ, Jésus-Christ, nous nous appelons d'après lui. Je pense à un pasteur qu'on aime, mais qui ne croit pas vraiment au Seigneur Jésus. Alors qu'il dit les choses du Seigneur qui sont absolument anti-scripturaires, qui dit de méchantes choses sur la personne du Seigneur. Il se dit chrétien et il fait aussi des services religieux. Tu ne peux pas, le Seigneur ne peut pas du tout nous reconnaître. C'est ça. Mais ce qui est très visible, c'est donc le contraste entre le verset 3 et le verset 4. Au verset 5, nous voyons encore cette communion, cette liaison que le Seigneur, comme homme ici sur la terre, avait avec son Dieu. L'Éternel est la portion de mon héritage, de ma coupe, tu maintiens mon lot, la portion de mon héritage. Ça rappelle un petit peu certainement aussi ce qu'il y avait une tribu qui appartenait à Dieu. Ils n'avaient pas un héritage dans le pays, les Lévites n'avaient pas d'héritage dans le pays. Leur héritage, c'était Dieu. Ils appartenaient à Dieu. Mais ici, le Seigneur va beaucoup plus loin, la portion de mon héritage. Alors, tout ce qui compte pour moi, ce qui compte vraiment pour moi, c'est Dieu lui-même. Lui, la première personne pour laquelle je vis. Il est mon héritage, la portion de mon héritage. C'est à cause de lui et pour lui que je suis aussi ici sur la terre. Ma pensée est toujours en accord avec mon Dieu. Il est la portion de mon héritage et ensuite de ma coupe. Alors là, ma coupe, reconnaissons cette expression aussi de Jean 18, la coupe que le Père m'a donnée, c'est la coupe, on pourrait dire la coupe d'une obéissance absolue. Quoi que Dieu donne avec sa coupe. Même en Jean 18, quand le Seigneur dit la coupe que le Seigneur, que Dieu m'a donnée, est-ce que je la boirai-je pas, dit-il à Pierre. Vous connaissez tous ce passage. Elle est très touchante. Elle montre cette obéissance. Obéissance jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Voilà ma coupe. L'Éternel est ma coupe. Et la coupe, en même temps, ou disons plutôt, la coupe de joie. Quand l'œuvre est accomplie, quand son obéissance a été vraiment magnifiée et est devenue visible et reçue par Dieu, alors là, ça devient une coupe de reconnaissance, de louange. Et nous avons encore une autre expression, une coupe de bénédiction. Et puis, troisième expression, tu maintiens mon lot. Le lot, c'est ce que Dieu a mis sur mon chemin. Mon lot, c'est suivre Dieu dans le service. C'est ici le service du Seigneur, bien sûr, dans le service, et de le suivre aussi quand ça devient très, très difficile. Et à ce moment-là, il maintient mon lot. Dans ce sens-là, Dieu était avec lui dans le chemin. C'est ce que nous trouvons là. Dieu maintient son lot. Le lot était clair. Le Seigneur Jésus avait dit aussi, « Voici, je viens pour faire ta volonté. Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Alors je vais absolument suivre le chemin que tu me traces. » Et il savait bien que la fin de son service, ça serait, ou disons le sommet de son service, ça serait de se donner lui-même, d'aller à la croix du calvaire, pour se donner. Voilà son lot, et Dieu le maintient dans son lot. Ça ne dit pas, nous connaissons bien sûr dans le Nouveau Testament aussi ces passages où Dieu doit mettre les ténèbres sur la scène, et que le Seigneur doit dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, c'est vrai. Même cela appartenait à son lot. Mais alors après, Dieu a tout fait en réponse. Dieu ne l'a pas laissé là. Et nous trouvons encore dans un autre verset de ce psaume aussi, ce que Dieu a fait. Nous savons que, alors, quand le Seigneur a dit, c'est accompli, et c'était vraiment accompli. Parce que depuis ce moment-là, le Seigneur a dit cela, qu'il y a encore une action par un incrédule qui était possible. Et c'était uniquement encore une action qui rendait témoignage de la mort du Seigneur. C'est-à-dire que le soldat est venu et que le soldat, encore blessé, la poitrine, son côté. Oui. Cela, et ça, c'est la dernière action qu'un homme sans foi pouvait faire. Après, Dieu a fait ainsi que plus personne, sauf ceux qui aimaient le Seigneur, pouvaient encore faire quelque chose avec le Seigneur. Il y a un Nicodème qui était alors un croyant, un disciple du Seigneur, il était devenu, il y a Joseph de l'Arimathie qui était venu. C'était après encore les femmes, les croyantes qui sont venues. Il y a Marie de Magdala qui était là. Alors tous, les disciples, sauf l'un qui. C'était lui maintenant qui s'est suicidé. Mais tous les autres, alors, avec eux, le Seigneur a eu encore des contacts. Dieu n'a pas permis à aucun autre de mettre encore la main, dans quel sens aussi on peut penser au Seigneur. Tu maintiens mon lot. Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables, oui, un bel héritage m'est échu. Là encore, nous trouvons, peut-être ce sont deux pensées qu'ils y trouvent. Les cordeaux étaient jetés, les cordeaux montraient la mesure de ce qu'on recevait. Et alors le Seigneur dit, ici le Seigneur, dans l'esprit prophétique, dit, les cordeaux sont tombés dans des lieux agréables. En allemand, il est dit même, des lieux agréables, mais aimables. Alors, oui, qu'on aime, et quand on pense que le Seigneur a d'abord vécu bien autre chose, il a quand même appelé cela comme ça. Mes cordeaux. Voilà ce qui était sa part. Il y a des choses qu'il a dû souffrir. Et pourtant, il dit agréable. Pourquoi ? Parce qu'il a souffert tout cela aussi pour Dieu. Et deuxième pensée, la conséquence, les lieux agréables après. Dieu l'a ressuscité et nous le trouvons encore plus loin dans ce psaume. Alors, un héritage. Le Seigneur pouvait déjà penser à cet héritage. Quand le Seigneur dit « c'est accompli », il avait beaucoup devant lui, beaucoup de personnes devant lui. Il connaissait, il savait alors, j'allais sauver des personnes, alors ceux qui étaient déjà, ils croyaient déjà, ils étaient aussi morts pour eux, mais il avait déjà en vue aussi des personnes telles que nous-mêmes. Il nous connaissait déjà, mon héritage. Et cordeaux agréables et aimables. On peut aussi voir déjà cela dans ces expressions, les cordeaux sont tombés dans des lieux agréables. Et un bel héritage, un héritage. Le Seigneur, par sa mort, il a sauvé des personnes que le Père lui a données. Dans le chapitre 17 de Jean, nous voyons ça. Ce que tu m'as donné de la terre, n'est-ce pas ? Dieu lui a donné ceux que c'est pour lesquels le Seigneur a mis sa vie. Un bel héritage que je reçois de toi. Et il avait fait pour Dieu son Père, son œuvre, il l'a accompli. Afin que aussi il y aurait des enfants de Dieu, que Dieu voulait avoir des enfants, il aura des enfants. Et en même temps, dans l'autre sens, Dieu le Père a donné ses enfants à son fils. Un père véritable. Ça sera aussi sa joie, tout le temps. Déjà maintenant, quand il y a, chaque fois, quand il y a un homme se convertit, il y a encore quelque chose de son héritage. Encore quelqu'un qui lui appartient et qui l'aura un jour dans le ciel. Un bel héritage m'est échu. Je bénirai l'Éternel qui me donne conseil durant les nuits même, mes reins m'enseignent. Oui, nous revenons maintenant encore une fois sur le chemin du Seigneur qui a passé ici sur la terre. Conseil. Je reviens à ce passage que nous connaissons des années 50, n'est-ce pas? Dieu a dit des conseils. Et le Seigneur a demandé aussi des conseils. Un de ces autres jours, on avait un peu devant nous le Seigneur qui a demandé à Dieu son chemin, il est allé sur la montagne, il a demandé à Dieu le conseil de ce qu'il devait faire, il a demandé le conseil aussi en Marc 4, quand le Seigneur a choisi les disciples. C'est toujours que le Seigneur a demandé conseil, il a reçu conseil. Il était à chaque moment en parfaite harmonie avec la pensée de Dieu. Ce conseil que le Seigneur avait, dont il dit qu'il avait reçu, qu'il avait voulu. Et il est dit encore. Durant les nuits même, mes reins m'enseignent. Il y a un passage dans l'Écriture, je crois que c'est dans le livre de Job, oui, où il est parlé des reins. Ah, peut-être nous pouvons trouver. Job 38, au verset 36, ce sont les questions que l'Éternel, c'est la réponse que l'Éternel donne à Job, parce qu'il avait beaucoup de questions, même des questions critiques. Qui a mis la sagesse dans les reins? Qui donna l'intelligence à l'esprit? Qui a donné la sagesse dans les reins? De la sagesse. Dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, les reins parlent de la sagesse. Et nous comprenons aussi un petit peu que les reins, c'est un organe qui expulse ce qui n'est pas bon. Oui, comme ça. Alors, on fait la différence entre ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Alors là, on comprend bien aussi la pensée. Et dans la langue hébreu, c'est donc devenu, justement, les reins sont devenus le symbole pour la sagesse. Et pour la sagesse de savoir distinguer le bien et le mal. Alors le Seigneur parle aussi de cela. Toujours dans sa vie, il a su exactement décider ce qui était bon, ce qui était mal, et aussi d'y répondre. Certainement aussi, c'est le cas quand le Seigneur a rencontré des personnes. Il a rencontré des personnes qui étaient de différents esprits. Pensons à Luc 7, où le Seigneur était dans la maison d'un pharisien, et il a, sans d'abord dire beaucoup de choses, il a exactement dit la pensée de ce pharisien, qui lui avait parlé dans son cœur quelque chose. Oh, si lui savait qui est cette femme-là qui vient pour lui rendre les pieds, alors il aurait... Non, le Seigneur savait exactement faire la différence. Ou bien dans un autre cas, avec Nicodème, il a bien vu que Nicodème était quelqu'un qui voulait vraiment savoir quelque chose du Seigneur et qui a aussi accepté quand le Seigneur lui a fait entendre une critique. Tu es le docteur, oui, merci. Le docteur d'Israël, alors tu ne sais pas cette chose-là. Il a accepté ça. Et cela n'a pas duré très longtemps parce que Nicodème a compris qu'il devait se ranger du côté du Seigneur. Aussi au milieu de ses compagnons dans le Synédrium. Alors là aussi, le Seigneur a tout de suite vu et sa façon de réagir vers l'un et vers l'autre était toujours absolument exact. Concernait exactement l'état de cœur, l'état d'esprit des différentes personnes. Oui. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Une courte phrase, mais on voit où son regard était. Nous disons quelquefois, quant à nous, il faut regarder le Seigneur. Nous avons raison. Nous trouvons chez le Seigneur le grand exemple. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Lui, c'était la direction de ses pensées, aussi de sa vue. Toujours regarder vers son Dieu. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Voilà, réponse d'ailleurs à ce psaume 15. À la fin, c'est aussi là qui ne sera pas ébranlé. Alors le Seigneur, il allait à un chemin absolument sûr parce qu'il avait l'Éternel à sa droite. Il est à ma droite. Et à ma droite, ça veut dire aussi que l'Éternel conduisait. Nous avons aussi cette image, et c'est connu même dans l'Ancien Testament, qu'à droite, c'est le côté de l'honneur. Même aujourd'hui, nous laissons notre épouse aller à notre droite. C'est très général qu'on comprend que c'est ça. Ça vient peut-être de l'écriture, peut-être, mais en tout cas, la place à droite, c'est la place d'honneur. Et quand c'est Dieu qui est à ma droite, c'est lui que j'honore. Et quand nous pensons à un homme qui a marché avec Dieu, je pense à Enoch, représentons-nous comment c'était. Qui a conduit quand ils marchaient ensemble? Bien sûr, Dieu. Dieu l'a conduit. Et on se représente aussi quelquefois comment c'était de marcher avec Dieu, comme c'était dit pour Enoch, de marcher avec Dieu. Alors il y a aussi des entretiens, bien sûr, et Dieu pouvait lui montrer le chemin. Et c'est pour cela que Enoch, parce qu'il suivait comme cela, Dieu était aussi un homme extraordinaire dans l'époque. Et c'est pour cela aussi qu'en lui, on trouve une image de ceux qui seront un jour ravis pour être dans le ciel. Ça, c'est les exemples que nous trouvons déjà dans l'Ancien Testament, nous parlent beaucoup aussi. Nous parlent aussi de quelques attitudes qui étaient là et qui étaient si beaux pour Dieu, si agréables. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme s'égaye même ma chair reposera en assurance. Oui, quelle était la joie du Seigneur ? Mon cœur se réjouit. Est-ce que nous trouvons des passages où il est dit que le Seigneur se réjouit ? Il y a un passage que nous devons voir et bien interpréter, bien expliquer plutôt. Quand le Seigneur dit, ou quand il est dit, que à cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix. À cause de la joie qui était devant lui. Nous pensons très souvent la joie qu'il aura un grand butin, disons. Beaucoup de personnes qui peuvent être seront sauvées. Vrai, certainement aussi. Mais la première et la grande pensée, c'est que le Seigneur savait où il allait et qui était pleinement satisfait, honoré, magnifié, glorifié. C'était Dieu son Père. La joie qui était devant lui. Vraiment faire ce que Dieu son Père lui demandait. C'était la joie qu'il a fait endurer la croix. Mon âme s'égaie, même ma chair reposera en assurance. J'ai déjà un peu parlé de ça tout à l'heure, quand nous avons eu devant nous aussi comment Dieu, ce que Dieu a fait. Ma chair se reposera en assurance. Et il n'y aura pas de corruption pour lui. Ah oui ? Bien. Dieu l'a gardé de la corruption. C'est d'ailleurs aussi quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas normal, mais c'est extraordinaire. C'est là. Et il a été mis dans une tombe. Dans une tombe où aucun corps avait été. Une tombe qui n'avait rien à faire avec la mort. Encore. Juste là, le Seigneur a été mis, son corps a été mis là, lui, son esprit était dans le paradis et il est sorti du tombeau et le Seigneur est apparu encore à bien des personnes. Même ma chair reposera en assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Maintenant, ton sein ici, c'est une seule personne, c'est le sein de Dieu. Nous sommes appelés aussi des saints, nous savons, mais c'est quand même autre chose que de dire le sein de Dieu. Le sein de Dieu, c'est le Seigneur. En personne. Et lui, il n'a pas vu la corruption. Un autre exemple de contraste, bien sûr, c'est Lazare. Lazare qui était 4 jours, le Seigneur était le troisième jour. Hein. À 4 jours, et alors Marthe devait dire, alors il ensemble, déjà, oui, c'est ça. La corruption, elle se va très vite, surtout dans les pays. Là, non, avec le Seigneur, non. Même ma chair reposera en assurance. Et dernier verset, tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Même ma... tu me feras connaître le chemin de la vie. Est-ce qu'il ne connaissait pas le chemin de la vie ? Non, ça ne veut pas dire cela. Il connaissait bien sûr le chemin de la vie. Mais alors, ça nous parle de la résurrection. La nouvelle, la résurrection. Et dans cette résurrection du Seigneur, il a pris encore d'autres après lui qui seront aussi ressuscités, comme nous le savons bien sûr. Et c'est le chemin de la vie. de la vie éternelle qui restera, qui est assurée, qui est claire. D'ailleurs, dans la première prédication de l'apôtre Pierre, en acte 2, ce passage est mentionné, il cite ce passage, mais il change un petit peu. Il ne dit pas des chemins de la vie. Alors, il prend le pluriel. Non pas parce que c'est un autre chemin, mais parce qu'il y en a d'autres qui suivront ce chemin-là que le Seigneur a pris le premier. Lui, il est le premier. Le premier-né d'entre les morts. Et après, lui, il y en a d'autres. C'est pour cela des chemins de la vie. Et puis encore, il y a un rassasiement de joie. Alors, une joie absolue et complète. Oui. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Nous comprenons. Le Seigneur est rentré là d'où il était venu. Et maintenant, il est le premier homme qui est dans le ciel. Aucun autre. Nous disons quelquefois, voilà, on a dit ça devant ton grand-père, il est dans le ciel. J'aimerais aller dans le ciel. Mais dans le ciel, en réalité, ça veut autre chose encore. Nous devons bien comprendre. Il est dans le paradis. Mais il est dans le paradis, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, et qu'on ne peut pas bien comprendre, mais le Seigneur était dans le paradis, il est dans le paradis, parce que l'apôtre Paul, en Philippiens 1, il dit alors, s'en aller, être avec Christ est de beaucoup meilleur. Être avec Christ où? Dans le paradis. Parce que le Seigneur est dans le paradis, et il est dans la maison du Père, et il est dans le ciel. Nous comprenons comment? Par la foi. Parce que la parole nous le dit ainsi. C'est bien simple. Mais par la foi, par la parole, nous comprenons aussi des choses que les gens, avec toute leur intelligence, ne peuvent pas comprendre. Et nous en sommes heureux. Dernière pensée. Nous avons vu quelque chose, quelques traits de caractère du cœur du Seigneur que nous devons prendre comme un modèle aussi pour notre vie. J'aimerais bien les nommer tout simplement. Au verset premier, la confiance. Et le deuxième verset, également encore, la dépendance et son humilité. Est-ce que ce n'est pas quelque chose à apprendre de lui? Oui, certainement. Ensuite, un peu plus loin, nous avons les joies que nous savons que les croyants sont la joie du Seigneur. Et cela peut nous aussi caractériser, de reconnaître tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Parce que ça ne se fait pas toujours. Nous devons quand même l'apprendre. Ensuite, nous avons un peu plus loin cette acceptation du Seigneur quand il a parlé de sa coupe et de son lot. Ensuite, un peu plus loin, le conseil. Le conseil de Dieu doit nous conduire dans notre chemin. Ensuite, nous avons que le Seigneur s'est proposé l'éternel devant lui. C'est aussi ce que nous devons faire. Nous allons peut-être mettre le Seigneur, voir, regarder vers le Seigneur. Nous avons encore après ce qui est encore devant nous, c'est-à-dire qu'il y a, même à la fin de la vie ici sur la terre, il y a toujours encore autre chose. Il y a toujours encore une assurance. Nous savons que quand nous sommes un jour, nous devons quitter cette terre sans que le Seigneur soit déjà venu. Nous savons que même là, Et nous le savons pour les, ceux qui sont devant nous, sont partis. Nous savons, ça ne sera pas, ce ne sera pas le dernier pas. Voilà. Là aussi, quelque chose que nous devons tenir ferme. Et ça affermira, nous affermira aussi sur notre chemin. Et peut-être à la fin encore, quand nous regardons où le Seigneur est maintenant, que la gloire du ciel, où nous allons aussi être introduits à la suite du Seigneur, elle est aussi très claire, elle nous appartient, et elle peut aussi nous rafraîchir et nous aider dans notre chemin que nous avons à faire tous les jours. Malgré la question pourquoi, ou peut-être à cause de pourquoi crains-tu mon âme au fond de la souffrance? Le Seigneur n'est-il pas ton appui?
Son soutien.
Voilà, son soutien. Voilà, ça aussi. Regarde vers lui, c'est toujours une joie de le voir. Et ça nous réconforte et ça nous protège aussi et ça nous rafraîchit aussi dans notre chemin pour faire des pas en sûreté avec lui et à sa gloire.
Stop.